Espace Mandoré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve, on les parlera, les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes, les mortes, les mortes, les morts. Connivence, révolution, sale ardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines mamelées, les phénix, les phénix, les phénix célibataires et dorés libres, on entend leurs ailes déployées. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements. Elles affirment triomphant que tout geste est renversement.
Bosé, Baptiste, Sarah, Nice, Yol, Corée, Sabine, Daniel, Gansvint, Edna, Joseph, Flore, Zita, Savé, Cornélie, Drupadi, Julienne, Hitman, Chloé, Desdemon, Raphaël, Iris, Vera, Arsino, Elise, Brenda, Orphis, Erodia, Bérénice, Sigrid, Andover, Aimé, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmond, Jeanne, Hermine, Kika, Aurélie, Évangéline, Simone, Maximilienne, Calypso, Judith, Anne, Isote, Christa, Robert, Vlasta, Cléonis, René, Maria, Béatrice,
Monique la police, Vitic part en guerre.
Salut. Et ben voilà, c'est Monique la police, Vitic part en vacances, puisque on est le 31 juillet et que l'émission qu'on a préparée n'est pas super bien préparée. Donc on va pas faire d'analyse de texte comme on a pu le faire les dernières fois. En revanche, on va vous mettre dans une ambiance particulière. En lisant cette fois-ci des passages sur l'éphéminaire, mais ceux-ci vont suivre, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des paragraphes qui parlent uniquement d'éphéminaire à l'intérieur du livre et parmi les différentes pages où les paragraphes parleraient d'éphéminaire. On va partir d'un des paragraphes qui parle d'éphéminaire et ensuite, lire tous les autres à la suite, jusqu'à ce qu'on en ait marre. Non, jusqu'à ce que le passage, enfin, ce qu'il y a à dire sur les féminaires soit un peu clôturé, on va dire ça.
Ou jusqu'à ce que la musique s'arrête.
Voilà, jusqu'à ce que la musique s'arrête, si on veut. Voilà, du coup, on va faire de cette émission uniquement des lectures, et on fera les analyses de texte plus tard, quand on bossera vraiment là-dessus, parce qu'avec les vacances, c'est assez compliqué. De se mettre dans ce mode-là. Voilà. Du coup, voilà. On vous souhaite aussi de vous mettre en mode vacances et de profiter juste. Il n'y a qu'à écouter des gens qui lisent. À propos des féminaires, elles disent par exemple qu'elles ont oublié le sens d'une de leurs plaisanteries rituelles. Il s'agit de la phrase « C'est vers le soir que l'oiseau de Vénus prend son vol ». Il est écrit que les lèvres des vulves ont été comparées à des ailes d'oiseaux, d'où le nom d'oiseau de Vénus qui leur a été donné. Les vulves ont été comparées à toutes sortes d'oiseaux, par exemple à des colombes, à des sansonnets, à des bengalis, à des rossignols, à des pinsons, à des hirondelles. Elles disent qu'elles ont déterré un vieux texte où l'auteur, comparant les vulves aux hirondelles, dit qu'il n'en connaît pas qui aille de mieux, ni ait l'aile si vite. Cependant, c'est vers le soir que l'oiseau de Vénus prend son vol, elles disent qu'elles ne savent pas ce que ça veut dire. La toison d'or est une des appellations qui a été donnée au poil qui recouvre le pubis. Quant aux quêtes des toisons d'or auxquelles certains mythes des temps anciens font allusion, elles disent qu'elles en savent peu de choses. Elles disent que le fer à cheval, qui est une représentation vulvaire, a été longtemps considéré comme un porte-bonheur. Elles disent que les figures les plus anciennes pour décrire les vulves ressemblent à des fers à cheval. Elles disent qu'en effet, c'est par de tels dessins qu'elles sont désignées sur les parois des grottes paléolithiques. Elles disent que les féminaires privilégient les symboles du cercle, de la circonférence, de l'anneau, du haut, du zéro, de la sphère. Elles disent que cette série de symboles leur a donné un fil conducteur pour lire un ensemble de légendes qu'elles ont trouvées dans la bibliothèque et qu'elles ont appelé le cycle du Graal. Il y est question des quêtes pour retrouver le Graal, entreprises par un certain nombre de personnages. Elles disent qu'on ne peut pas se tromper sur le symbolisme de la table ronde qui a présidé à leur réunion. Elles disent qu'à l'époque où les textes ont été rédigés, Les quêtes du Graal ont été des tentatives singulières, uniques, pour décrire le zéro, le cercle, l'anneau, la coupe sphérique contenant le sang. Elles disent qu'en juger par ce qu'elles savent de l'histoire qui a suivi, les quêtes du Graal n'ont pas abouti, qu'elles sont restées à l'ordre du récit.
Il y a aussi les légendes où les jeunes femmes ayant dérobé le feu, leurs vulves en ont été les porteuses. Il y a l'histoire de celle qui s'est endormie, 100 ans, pour s'être blessée le doigt à son fuseau. Le fuseau étant donné pour le symbole du clitoris. À propos de cette histoire, elles font beaucoup de plaisanteries sur la maladresse de celle à qui les précieuses indications d'un féminaire ont manqué. Elles disent en riant qu'il faut qu'elle ait été le phénomène dont il est parlé par ailleurs, celle qui, à la place de la petite langue prompte au plaisir, a eu un dard venimeux. Elles disent qu'elles ne comprennent pas qu'on l'ait appelée la belle au bois dormant. Blanche-Neige court dans la forêt. Ses pieds se prennent dans les racines des arbres, ce qui fait qu'elle trébuche à tout moment. Elles disent que les petites filles connaissent l'histoire par cœur. Rose Écarlate, derrière, la suit, contrainte de courir en criant. Blanche-Neige dit qu'elle a peur. Blanche-Neige dit en courant « Oh mes aïeux, je me jette à vos sacrés genoux. » Rose Écarlate rit. Elle rit tellement qu'elle tombe, qu'elle se met en colère pour finir. Hurlant de rage, Rose Écarlate poursuit Blanche-Neige avec un bâton, menaçant de l'assommer si elle ne s'arrête. Blanche-Neige, plus blanche que la soie blanche de sa tunique, se laisse tomber au pied d'un arbre. C'est alors que Rose Écarlate, rouge comme une pivoine, ou bien rouge comme une rose rouge, va et vient avec fureur devant elle, en frappant la terre de son bâton en criant « Tu n'en as pas, tu n'en as pas !» Blanche-Neige tourne la tête à droite pour voir passer Rose Écarlate, puis à gauche pour la voir repasser, tandis qu'elle répète de plus en plus fort « Tu n'en as pas, tu n'en as pas !» Si bien que pour finir, Blanche-Neige demande « Qu'est-ce que je n'ai pas ?» Ce qui a pour effet d'immobiliser Rose Écarlate, disant « Des sacrés aïeux, tu n'en as pas !» Blanche-Neige dit qu'elle veut bien s'en passer. D'autant plus qu'elle n'a plus peur du tout, et s'emparant d'un bâton, elle se met à courir de tous côtés. On peut la voir cogner de toutes ses forces contre les troncs des arbres, cinglant les souples arbustes, frappant les racines moussues. À un moment donné, elle donne un grand coup de bâton à Rose Écarlate endormie au pied d'un chêne et ressemblant à une grosse racine, rose comme une rose rose. Elles disent qu'elles ont trouvé des appellations en très grand nombre pour désigner les vulves. Elles disent qu'elles en ont retenu quelques-unes pour leur amusement. La plupart ont perdu leur sens. Si elles se réfèrent à des objets, ce sont des objets à présent tombés en désuétude. Ou bien il s'agit de noms symboliques, géographiques. Il ne s'en trouve pas une parmi elles pour les déchiffrer. Les comparaisons, par contre, ne posent pas de problème. Par exemple, quand on a comparé les nymphes à des violettes, ou bien les vulves dans leur aspect général à des oursins, à des étoiles de mer. Des périphrases telles que « sexe aux doubles embouchures » sont relevées par les féminaires. Les textes disent également des vulves qu'elles ressemblent à des ulves, à des volutes. C'est un œil enfermé dans ses paupières qui bouge, qui brille, qui s'humidifie. C'est une bouche avec ses lèvres, sa langue, son palais rose. Les féminaires, outre les cercles, les anneaux donnent pour symbole des vulves, les triangles coupés d'une bissectrice, les ovales, les ellipses. Les triangles ont été figurés dans tous les alphabets par une ou par deux lettres. On peut styliser les ovales ou les ellipses sous forme de losanges, ou bien sous forme de croissants de lune, c'est-à-dire des ovales partagés en deux. Ce sont les mêmes symboles sur les bagues ovales dont les chatons entourent des pierres de toutes les couleurs. D'après les féminaires, les bagues sont contemporaines des expressions telles que les bijoux, les trésors, les pierres, pour désigner les vulves.
Se peut que les féminaires aient rempli leurs offices. Ils disent qu'elles n'ont pas les moyens de le savoir. Elles disent que tous imprégnés qu'ils sont de vieux textes qui pour la plupart ne sont plus entre leurs mains, ils leur ressemblent démodés. Tout ce qu'on peut en faire pour ne pas s'encombrer d'un savoir inutile, c'est de les entasser sur les places et d'y mettre le feu. Il y aurait là le prétexte à des fêtes. Parfois il pleut sur les îles oranges, vertes, bleues. Une brume alors se tient au-dessus d'elles sans dissimuler leur couleur. L'air que l'on respire est opaque et mouillé. Les poumons sont comme des éponges imbibées d'eau. Les requins avalent les colliers qu'on jette par-dessus bord pour les éloigner. Les verroteries en enfilade, les boules laiteuses. Certains restent accrochés aux dents de quelques requins qui se tournent et se retournent pour s'en débarrasser. Il se peut qu'on en aperçoive son ventre blanc, une végétation équatoriale est vue sur les rivages. Les arbres sont tout près de la mer. Ce sont des bananiers, des arangas, des oréodoxes, des euterpes, des archiers, des lataniers, des cariotes, des éléis, à moins que ce soit le chêne vert de l'Écosse. Il n'y a pas d'abri le long des plages, il n'y a pas d'anse, il n'y a pas de port. Les îles sont ceinturées d'une frange de mer bleue de céruléum. Elles se tiennent par exemple sur le pont du bateau. Marie-Agnès Myrne vomit les 47 oranges que par jeu elle a avalées entières. Elles tombent de sa bouche une à une. Des filets de salive les accompagnent. À un moment donné, les sirènes des bateaux sont entendues. À chacune de leurs avances, elles poussent un cri bref. Quand elles s'arrêtent, leurs voix ont de longues modulations. Elles se déplacent à la façon des kangourous, jambes jointes sur lesquelles elles se plient pour prendre leur élan. Parfois, elles tournent sur elles-mêmes comme des toupies, la tête dans leurs bras. C'est dans ce mouvement qu'elles exhalent un parfum d'arôme de lys, de verveine, qui se répand d'un seul coup dans l'espace autour d'elles. Le parfum est différent suivant la vitesse de leur rotation. Il se décompose en passant par des tonalités diverses. Cela sent alors le réséda, le lilas, le gardenia ou bien le pois de senteur, le volubilis, la capucine. Cela sent la rose cuite, le litchi, le raisin, le corinthe. Cela sent les feuilles qui pourrissent dans la terre, les cadavres d'oiseaux. Quand la nuit tombe, elles quittent leur fourrure pour se coucher. Elles les disposent en forme de sac. Elles les suspendent aux branches des arbres et se glissent à l'intérieur. Leur colonie est vue couvrant les arbres, à perte de vue, de grosses boules de fourrure.
Dans la légende de Sophie Ménade, il est question d'un verger planté d'arbres de toutes les couleurs. Une femme nue y marche. Son beau corps est noir et brillant. Ses cheveux sont des serpents fins et mobiles qui produisent une musique à chacun de ses mouvements. C'est la chevelure conseillère. On l'appelle ainsi parce qu'elle communique par la bouche de ses 100 000 serpents avec la femme porteuse de la chevelure. Orphée, le serpent préféré de la femme qui marche dans le jardin, sans cesse lui conseille de manger du fruit de l'arbre du milieu du jardin. La femme goûte du fruit de chacun des arbres en demandant à Orphée, le serpent, comment reconnaître le bon. Il lui est répondu qu'il est étincelant, qu'à le regarder simplement, on a la joie au cœur. Ou bien, il lui est répondu que, dès qu'elle aura mangé le fruit, sa taille se développera. Elle grandira. Ses pieds ne quitteront pas le sol, tandis que son front touchera les étoiles. et lui, Orphée et les 100 000 serpents de sa chevelure, s'étendront de part et d'autre de son visage. Ils lui feront une couronne brillante. Ses yeux deviendront pâles comme des lunes. Elle aura la connaissance. Elle, alors, presse Sophie Ménade de questions. Sophie Ménade dit que la femme du verger aura la vraie connaissance du mythe solaire que tous les textes ont à dessein obscurci. Elle, alors, la presse de questions. Sophie Ménade dit « Soleil qui épouvante et ravi, insecte multicolore chatoyant, tu te consumes dans la mémoire nocturne, sexe qui flamboie, le cercle est ton symbole, de toute éternité tu es, de toute éternité tu seras. » Elles, à ces paroles, se mettent à danser en frappant la terre de leurs pieds. Elles commencent une danse circulaire en battant des mains, en faisant entendre un chant dont il ne sort pas une phrase logique.
Elles disent qu'à partir du moment où les féminaires font défaut, elles peuvent se reporter à ce temps où, pour ce qui les caractérise, elles ont fait la guerre. Elles disent que tout ce qu'elles ont fait faire, c'est inventer les termes qui les décrivent sans se reporter conventionnellement aux herbiers ou aux bestiaires. Elles disent que cela peut être fait sans emphase. Elles disent que ce qu'elles doivent avant tout mentionner, c'est leur force et leur courage. Le grand registre est posé sur la table ouverte. À tout moment, l'une d'entre elles s'en approche et écrit quelque chose. Il est difficile de le compulser parce qu'il est rarement disponible. Même alors, il est inutile de l'ouvrir à la première page et d'y chercher un ordre de succession. On peut le prendre au hasard et trouver quelque chose par quoi on est concerné. Cela peut être peu de choses. Les écritures, si diverses qu'elles soient, ont tout un caractère commun. Il ne se passe pas de moment sans que l'une d'elles s'en approche pour y inscrire quelque chose. Ou alors c'est une lecture à haute voix d'un passage quelconque à laquelle il est procédé. Il se peut que beaucoup d'entre elles soient présentes pour la lecture. Il se peut aussi que la lecture se fasse sans assistance aucune, sauf une mouche qui importune la lectrice en se posant sur sa tempe.
Tout le monde déteste Bordeaux Métropole. Tout le monde déteste Bordeaux Métropole. Tout le monde déteste
Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole.
Au 23 rue François de Sourdi se dresse un bloc vitré surmonté d'une carapace de béton blanc. Un toit d'apparence oblique hérissé d'une antenne. Derrière ces murs blancs, le bloc est creux, abritant un parking, des parkings à ciel ouvert. Faisant l'angle d'un carrefour joignant deux gros axes, quelques arbres sur son flanc gauche, trois drapeaux miteux sur son flanc droit, son arrêt de tramway éponyme, aussi à sa droite, accessible par une voie d'accès en pente. Voisinant la patinoire, ou encore l'inspection du travail, on y accède par de grosses marches donnant sur un parvis qui donne sur le sas d'entrée vitré. Un pan de mur du bâtiment se terminant en colonne sur le parvis, devant l'entrée renfoncée, nous indique, en gros, sur ses 6 mètres de hauteur, police nationale. Vigie pirate niveau rouge, bouffon armé en gilet qui patrouille, guette, notamment ici. Fouille à l'entrée, jusqu'au recoin des poches et des sacs, un détecteur passé le long du corps, tu peux entrer dans l'antre. Obligation de prendre un ticket et d'attendre que ton numéro soit appelé. Peu importe ce pourquoi tu es là. Pour l'attente interminable, il y a au choix. Les bancs en fer, toujours pris, se faisant face. Le distributeur de boissons old school, face au service de la fourrière. Ou mieux, des brochures t'apprenant à détecter les comportements suspects, signe d'une radicalisation, présageant un passage à l'acte, terroriste, djihadiste, la parano. Sinon, il y a de la bonne propagande. Rejoins la réserve de la police nationale, qui ne manque pas d'exalter les valeurs républicaines, citoyennes, tout en poussant à surveiller son voisin, prêt à se balancer. Citoyens et flics ne sont qu'un. Ton numéro appelé, rendez-vous à l'accueil, reçu suivant l'humeur des policiers en poste. Te voilà dans la fourmilière, ça grouille de flics, partout. Tu peux voir passer Crâne d'œuf ou même Chuck, chez eux. Ici, il y a tout. Du CRA, toile à 100 papes, aux salles d'interrogatoire, des cellules de détention provisoire aux armureries, des bureaux en pagaille avec toutes sortes de flics, toutes sortes de sections d'unités. Ascenseurs, escaliers, pièces, couloirs, étages, cours, parking, halles, sas, uniformes. Tout est sécurisé apparemment, par des accès badgés et des caméras. Pourtant, ça n'a pas empêché un mec bourré, au volant de sa caisse, de pénétrer il y a quelques jours, par inadvertance, la cour du Comico, centrale, au beau milieu des caisses de flics, banalisées ou non. Bac, BRI, RAID, PAF, judiciaire, administrative, STUP, MERS, cybercriminalité, cynophile, etc. Plein d'unités, de brigades, de cellules, de divisions ont leur base ici. Une machine aux multiples rouages, une ruche, un nid. Gentil flic, méchant flic, mais toujours flic. Trop de flics. On veut voir cet endroit détruit. Pendant ce temps, le SGAP, section de gestion administrative de la police, c'est ça ? Pense un projet d'extension de l'hôtel de police, mais l'architecte du bâtiment, Claude Marty, d'A5A Architecte, qui est basé à Paris, s'y oppose, de peur de défigurer, selon ses mots, son bâtiment, né il y a seulement 13 ans. Et ouais, cette merde a été construite en 2003 par A5A, cabinet d'architecture, oui, à fond dans le délire urbanisme durable, école tout en bois, réhabilitation de bâtiments historiques, un maître d'œuvre prisé, quoi. Sur ce coup, ils étaient en collaboration avec CRIPREFA, Construction Industrielle Rationnelle, qui a utilisé 8 000 m² de panneaux de béton, sa spécialité, pas vraiment durable. Enfin, ça c'est ce qu'on espère. Tout le monde déteste l'hôtel de police, tout le monde déteste Bordeaux Métropole. They got a problem to fix, man. It's raining bricks and the city's burning down. And as the fire spreads from London up to Liverpool, there's a man on the set and he says that you better call your kids and tell them to come home from their ultraviolet.
Ultraviolet.
Ultraviolet. See that it's a joke and you just wanna blow that fucker away. It's kinda like when you're having a row and then you smash your window and you don't know how. But all your built up anger seems to have gone away. And it burns like ultraviolet.
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 Say I'm not surprised as the bricks and bottles decorate the sky, and helicopters and sirens are the only sounds that you can hear outside. And if the barricades of this urban war zone are built, I pray that lessons will be learned about the things that turn the kids this way to their own.
Après avoir loupé Zou il y a 2 semaines, ma frustration à son comble, je décide de prendre l'agenda en espérant trouver le soir même un concert qui...
Radio associative.
On ne change pas une équipe qui perd. La chronique des concerts ratés. Sur Radio Potlatch 90.1 FM. Et sur Radio Potlatch .noblogs.org. Cette fois-ci, on ne change pas, on ne change pas, on ne change pas une équipe qui perd.
Alors salut, donc le concert raté de cette semaine, c'était la soirée de relâche de vendredi dernier, donc le 28 ou 29, organisée par Allez les filles, la caution cool de la mairie de Bordeaux. Du coup, cette soirée-là, c'était l'affiche, c'était tous les groupes de garage un peu qui marchent bien en ce moment, donc Useless Eaters, Os Mutants, The Intelligence et King Mud, et un groupe bordelais qui s'appelle Atom. Le lieu du festival, c'est la cour entre le conservatoire et les beaux-arts. Donc, tu es enfermé entre 4 murs avec 2 vigiles à l'entrée qui t'empêchent de rentrer avec l'alcool que tu as pourtant acheté sur le site du festival, avec des bières à 3 euros, plus 1 euro de consigne, ce qui est hors de prix. Le public était relativement mou, c'était un public très familial, très vieux. La scène est vraiment moche avec le logo Bordeaux. De chaque côté de la scène et le logo Allez les filles au fond de la scène, au-dessus des groupes. En plus de ça, un concert en plein air, le son n'est pas toujours très bon en plein air, et là, c'était encore une fois le cas. La musique qui était diffusée entre les groupes était plutôt dansante et amusante. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de basse et que c'était impossible de se parler entre les concerts. Et il y a eu du monde parce qu'il n'y avait rien d'autre ce soir-là, en fait. Au-delà de ça, en fait, Useless Eaters, The Intelligence, c'est des groupes qui ont joué il y a 2 mois à Bordeaux. Pour revenir un peu sur les groupes Atom, je les ai ratés. C'était le groupe bordelais qui avait l'air, ma foi, très bien, mais je n'étais pas là. C'était raté. Ensuite, Useless Eaters, que j'ai déjà eu l'occasion de voir une fois à Bordeaux, d'ailleurs au Void, c'était déjà nul une première fois, là pour une deuxième fois c'était pareil, c'était nul. Le groupe joue vite mais c'est mou, quand je vois des groupes comme ça, je n'arrive pas à considérer que des labels puissent sortir des disques de ce groupe-là, de les faire jouer. Je préfère largement mettre un bon vieux Jay Retards que écouter Useless Eaters. Après ça a plu à certaines personnes, tant mieux pour eux, moi je trouve ça nul à chier. House Mutants, le groupe australien qui cartonne en ce moment, et pour le coup c'était la bonne surprise de la soirée. Donc on a un guitariste qui est une pastiche de Iggy Pop en brun, on a un deuxième guitariste qui sort d'un groupe post-rock, pourquoi pas, un bassiste dégueulasse qui ressemble à T-Rex, qui fait des moves pas possibles quand il joue, et un batteur comme il peut y en avoir plein. Pour le coup, ça jouait vite, c'était vraiment péchu, c'était vraiment bien, c'était la bonne surprise de la soirée. Par contre, les mecs font blague sur blague, juste c'était chiant au bout d'un moment, en fait. Ils se faisaient passer pour les Casualties de New York, pourquoi pas, hein, ça les a fait marrer, mais je pense que personne n'a capté ce truc-là. Ensuite, The Intelligence, je les ai pareil, j'avais déjà eu l'occasion de les voir au Void à Bordeaux. Très sympa la première fois que je les vois, cette fois-là, bon, les morceaux, moi je les connais, c'est un truc qui m'a plu, mais la plupart de mes potes ont détesté ce groupe-là, tant pis. Après c'est vrai qu'ils ont des chemises à carreaux et qu'ils sont vieux, je comprends qu'on n'aime pas. Et le dernier groupe, King Mud, alors ça par contre, là c'est une question de goût, mais moi juste je peux pas blairer, en fait, c'est gros blues à papa. Le son était très bon, une guitare un peu dans les graves, très fuzz, un batteur nul. Et une musique, oui, blues à papa, ça a amusé un peu les Bordelais de plus de 40 ans en mal de blues. Voilà, c'était ma chronique du concert raté.
Waiting for the moment. some action and some reputation. To get some directions, notorious school assistants. The scales of my heart, the enter when you start. We've been shot, we've been shot, we've been shot. For father's pride and a laugh on the wild side. So yes, you play that song. You still got the words wrong. There's a question in your heart. Is there an answer when you start? We'll be the shock. 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 We've been shocked in this life. We've been shocked in this life. We've been shocked in this life. We've been shocked in this life.
Shocking, that's life. We'd be the shocking, that's life.